Bonjour à tous, Yacouba Ouidraogo avec vous. Bienvenue dans le monde aujourd'hui, au sommaire en cette matinée du mardi 20 août.
Let me know in my heart when my days are through. America, America, I gave my best to you.
Joe, thank you for your historic leadership, for your lifetime of service to our nation, and for all you will continue to do. We are forever grateful to you.
Ouverture hier à Chicago, ici aux États-Unis, de la Convention nationale des démocrates, le président Joe Biden, qui a passé le flambeau à Kamala Harris, était parmi les orateurs. Le National Democratic Institute était aussi de la partie.
Nous sommes très heureux du fait que parmi les invités, nous avons des personnalités africaines, notamment les leaders des partis politiques de la mouvance comme de l'opposition, venant du Nigeria, du Kenya, de l'Ouganda, de l'Afrique du Sud, mais aussi des pays comme le Soudan.
Christopher Fomigno, responsable principal pour l'Afrique au National Democratic Institute, interview à suivre dans la partie magazine de cette édition. La République démocratique du Congo espère recevoir les premières doses de vaccins contre l'épidémie de Mpox la semaine prochaine. En visite au Moyen-Orient, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken poursuit aujourd'hui en Égypte sa tournée pour convaincre les belligérants dans la bande de Gaza d'accepter un cessez-le-feu. Il était hier en Israël. Dans un peu plus de 10 minutes, nous retrouverons Eric Manirakiza pour l'espoir. Juste après l'économie, mais d'abord le journal. La ville de Chicago est le lieu de convergence des militants et des leaders du Parti démocrate qui officialise cette semaine le choix de Kamala Harris et de Tim Walz comme le ticket devant défendre les couleurs de ce parti à la présidentielle de novembre. La première nuit a été marquée par les discours de personnalités comme Hillary Clinton, mais aussi et surtout Joe Biden, le président américain qui a renoncé à se présenter. Retrouvons tout de suite à Chicago notre envoyé spécial Dilly Dico.
Joe Biden a reçu un accueil spectaculaire à la convention démocrate sous une pluie d'applaudissements. La foule a scandé « Thank you, Joe ». « Merci, Joe » pendant un long moment. Après avoir été introduit par son épouse et sa fille, Joe Biden s'est adressé à la salle comble du centre de convention pour déclarer que la démocratie va triompher. Il a rappelé les événements du 6 janvier 2021 lorsque le Capitole a été pris d'assaut. Il a parlé de l'importance de reconstruire la classe moyenne américaine, affirmant que le rôle d'un président est de travailler pour tous les Américains. Il a fait le point sur les succès de sa présidence et rappelé que ces succès sont aussi ceux de Kamala Harris. Avant Biden, de nombreuses personnalités du Parti démocrate ont pris la parole, dont l'ancienne secrétaire d'État Hillary Clinton et candidate à la présidentielle de 2016. Elle a remercié le président Biden pour son service à l'Amérique le long de sa vie et ajouté qu'il était temps de se tourner vers l'avenir et d'aider la vice-présidente Harris à briser le plafond de verre et à devenir la première femme à la tête des États-Unis. Kamala Harris, qui a participé à cette première soirée de la convention, a fait une apparition surprise sur la scène et mis l'accent sur le travail accompli par Joe Biden, qu'elle a qualifié de président historique. S'adressant au public, elle a dit voir la beauté de notre nation, des gens venus des quatre coins du pays, unis pour partager une vision commune. Elle acceptera officiellement sa nomination jeudi, jour de clôture de la convention.
Des manifestants pro-palestiniens ont brièvement ouvert hier une brèche dans le périmètre de sécurité extérieure protégeant cette convention démocrate à Chicago, c'est ce qu'a reconnu la police. Une centaine de personnes ont quitté la foule principale composée de milliers de manifestants contre le soutien américain à Israël et s'en sont pris à une barrière de police qui entoure le United Center, enceinte sportive où se tient la grand-messe démocrate. Joe Biden a déclaré que ces manifestants pro-palestiniens ont des arguments à faire valoir, ajoutant que beaucoup de personnes innocentes ont été tuées côté palestinien et israélien. Les États-Unis ont pointé du doigt hier la responsabilité de l'Iran dans plusieurs tentatives de piratage informatique contre les campagnes présidentielles de Donald Trump et Kamala Harris. C'est ce qui ressort d'un communiqué conjoint de la police fédérale FBI, du bureau de la directrice du renseignement national et de l'agence de cybersécurité et de sécurité des infrastructures. Le renseignement américain estime que des agents iraniens ont tenté de contacter des individus avec un accès direct aux campagnes présidentielles des deux parties. La République démocratique du Congo espère recevoir les premières doses de vaccins contre l'épidémie de Mpox la semaine prochaine. Dans ce pays, la maladie a déjà fait au moins 570 morts selon les autorités. Les précisions avec Mohamedou Oumfa.
J'espère que la semaine prochaine, on pourrait déjà voir arriver les vaccins. Notre plan stratégique de réponse à la vaccination est déjà prêt. Nous attendons juste que les vaccins arrivent, a indiqué le ministre congolais de la Santé, Samuel Roger Kamba, lors d'une conférence de presse. Nous avons deux pays essentiellement qui nous ont promis des vaccins. Le premier pays, c'est le Japon, et le deuxième pays, ce sont les États-Unis d'Amérique, a-t-il dit. Les États-Unis ont promis 50 000 doses, tandis que le Japon a signé lundi avec les autorités pour 3,5 millions de doses uniquement pour les enfants, a expliqué un responsable de la cellule de riposte sous couvert d'anonymat. Pays d'environ 100 millions d'habitants, la RDC compte vacciner 4 millions de personnes, dont 3,5 millions d'enfants, a ajouté cette source. Pays le plus touché, la RDC a enregistré 16 700 cas, avec un peu plus de 570 personnes décédées depuis le début de l'année, a indiqué le ministre Samuel Roger Kamba. La RDC est le foyer et l'épicentre de l'épidémie actuelle, dont la propagation d'une souche plus dangereuse du virus suscite une inquiétude croissante en Afrique et au-delà.
Les discussions sur le Soudan qui se déroulent en Suisse sur l'élargissement de l'accès humanitaire visent en priorité à rouvrir trois routes, a indiqué lundi l'envoyé spécial américain Tom Perriello, le point avec Eddie Sango.
Le diplomate américain déclare que la première priorité a été d'examiner comment ouvrir trois routes qui, dans leur ensemble, permettraient à 20 millions de personnes qui sont actuellement totalement ou en grande partie privées de nourriture et des médicaments de recevoir cette aide. Monsieur Perriello affirme que les passages d'Adre étaient sur le point d'ouvrir avec plus de 100 camions prêts à partir dès demain. Cela signifie que nous pourrions voir de la nourriture et des médicaments parvenir à des zones telles que les camps des Zamzam, où plus de 400 000 personnes sont confrontées à la faim et à la famine, a-t-il ajouté. La guerre au Soudan oppose depuis avril 2023 l'armée menée par le général Abdel Fattah al-Burhan aux paramilitaires des forces de soutien rapide FSR et de son ex-adjoint, le général Mohamed Hamdan Daglo. Les États-Unis ont lancé les 14 août en Suisse, dans un lieu tenu secret, ces discussions en présence des FSR, mais sans l'armée soudanaise qui conteste les formats des pourparlers.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken poursuit aujourd'hui au Caire sa tournée au Proche-Orient. Le chef de la diplomatie américaine arrive de Tel Aviv où le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou lui a, selon lui, confirmé qu'Israël acceptait le plan de compromis de Washington pour une trêve. Il incombe désormais au Hamas d'accepter ce plan, selon le chef de la diplomatie américaine Claire Morin-Gibault.
Pour son 9e voyage dans la région depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, M. Blinken a rencontré M. Netanyahou pendant 3 heures. « Israël accepte le plan de compromis », a dit M. Blinken. « Il incombe désormais au Hamas d'en faire de même ». Le chef de la diplomatie américaine se rend aujourd'hui en Égypte avant d'aller au Qatar. Ces deux pays médiateurs poussent également à un cessez-le-feu. Israël et le Hamas disent depuis des semaines soutenir le plan en 3 phases proposé fin mai par le président américain Joe Biden. Mais le Hamas accuse désormais Israël d'avoir ajouté de nouvelles conditions qu'il estime se voir imposer via des diktats américains. La communauté internationale redoute désormais un embrasement régional car l'Iran et son allié le Hezbollah libanais se disent obligés de riposter contre Israël, auquel ils imputent les assassinats fin juillet à Téhéran du chef politique du Hamas, Ismaël Haniyeh, et à Beyrouth de Fouad Chokr, au commandant du Hezbollah.
Les États-Unis ont annoncé hier avoir approuvé la vente de 36 hélicoptères d'attaque Apache ainsi que du matériel lié à la Corée du Sud pour un total d'environ 3,5 milliards de dollars. Selon l'Agence américaine pour la coopération en matière de défense, cette vente d'armement, qui inclut des missiles, doit permettre à cet allié clé de Washington en Asie d'améliorer sa capacité à faire face aux menaces actuelles et futures et de dissuader ses adversaires. Le maillard britannique de la tech Michael Lynch, surnommé le Bill Gates britannique, fait partie des 6 personnes ayant disparu dans le naufrage d'un super yacht de luxe. L'appareil a sombré avec 22 passagers et membres d'équipage à son bord, surpris par une tempête dans la nuit de dimanche à lundi près de Palerme dans le sud de l'Italie. 15 personnes ont été secourues. Et puis au Venezuela, le candidat de l'opposition Edmundo González Urrutia, qui revendique la victoire à la présidentielle du 28 juillet, se dit prêt au dialogue en vue d'une transition. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Nous passons maintenant à la page économie. C'est la Minute Éco avec Nanit Talani.
Le Congo-Brazzaville doit concevoir des instruments fiscaux efficaces pour une foresterie et une croissance économique durable, souligne la Banque mondiale. Il s'agirait d'aligner des systèmes introduits dans certains pays de la région, comme le bonus-malus, qui encourage les pratiques favorables à la santé de la forêt et à sa pérennité, tout en décourageant celles qui pourraient nuire à l'écosystème forestier. Les forêts occupent 2/3 du territoire congolais. En Ouganda, les exportations de café ont bondi de 27,2% en juillet, avec 822 000 sacs de 60 kg expédiés par rapport à la période précédente, grâce à une bonne récolte dans l'une des régions productrices dans le sud-ouest du pays, a déclaré l'autorité de développement du café. Kampala gagne environ 1 milliard de dollars par an grâce aux expéditions de café, l'une de ses principales sources de devises étrangères.
Pour la page sportive de ce journal, retrouvons Eric Manirakiza. Bonjour Eric.
Bonjour Yakuba.
Du football pour commencer, début hier des rencontres du tournoi CECAFA en vue de la Ligue des champions féminines de la CAF 2024.
Les Simba Queens ont remporté leur match contre les forces armées de Djibouti sur un score de 5-0. Achar Rachid, auteur d'un triplé, a grandement contribué à ce succès, de même qu'Elisabeth Wambui et Gentrix Chikangwa. Les Kawempe Muslim Ladies ont battu le PVP Buyenzi 2-0 des Ougandaises et se sont remises au talent d'Agnès Nabukenya, auteur d'un doublé ce mardi. Les équipes du groupe A redescendant dans l'arène du stade Abebe Bikila d'Addis Abeba. Les régionales de l'étape, les Éthiopiennes de Commercial Bank of Ethiopia affrontent le Yei Joint FC, puis le Kenya Police Bullet et Rayon Sport vont croiser le fer.
En boxe, Christian Mbili l'emporte contre Sergi Derevyanchenko.
Le boxeur français Christian Mbili, en quête d'une chance mondiale chez les super moyens, a été victorieux au point contre l'Ukrainien Sergi Derevyanchenko samedi dans la ville de Québec au Canada. Mbili, valeur montante de cette catégorie, reste donc invaincu chez les professionnels, 28 victoires dont 23 par KO. Il a réussi une démonstration contre l'adversaire le plus expérimenté qu'il ait affronté jusqu'à présent. « Je veux être champion du monde », a lancé Mbili sur le ring. Le Français âgé de 29 ans, né au Cameroun, espère être dans un futur proche l'adversaire de la star mexicaine Saúl Canelo Álvarez, qui recherche les combats les plus rémunérateurs organisés en général lors des deux principales fêtes mexicaines en mai et septembre. La catégorie est dominée depuis plusieurs années par Canelo, qui défendra justement le 14 septembre prochain 3 de ses ceintures mondiales des super moyens face au portoricain invaincu Edgar Berlanga. Mbili enchaîne de son côté les succès probants. Il est le seul Français classé dans le top 5 par les 4 fédérations majeures dans cette catégorie des super moyens.
Football toujours, l'Allemand Ilkay Gundogan annonce prendre sa retraite internationale.
Le milieu de terrain allemand et capitaine de la Mannschaft, Ilkay Gundogan, a annoncé hier lundi mettre fin à sa carrière en équipe nationale, expliquant sur le réseau social X ressentir une certaine fatigue. « Je suis très fier d'avoir disputé 82 matchs internationaux pour mon pays », écrit dans son message le joueur de 33 ans sous contrat avec le FC Barcelone, soulignant le point culminant qu'aura été dans sa carrière l'Euro 2024, disputé cet été à domicile où l'Allemagne a été éliminée en quart de finale par l'Espagne. Et c'est tout pour les sports.
Merci Eric.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Yacouba Ouedraogo, toujours avec vous pour vous présenter les dossiers du jour. Ici aux États-Unis, à l'occasion de l'ouverture de la Convention démocrate à Chicago hier soir, notre envoyé spécial Adili Diko s'est entretenu avec Christopher Fumigno, responsable principal pour l'Afrique au National Democratic Institute et conseiller spécial du président Joe Biden. Après avoir expliqué comment le travail du NDI s'inscrit dans la Convention, Fumigno a parlé de la présence africaine à la Convention des démocrates et de l'état de la démocratie dans le monde.
Le NDI est une organisation à but non lucratif et nous exerçons nos activités de manière non partisane. Mais nous avons aussi une organisation sœur qui s'appelle International Republican Institute et nos deux organisations sont toujours sollicitées par les grands partis politiques américains pour les aider à gérer la présence des personnalités internationales lors de ces deux conventions. Donc il y a de cela quelques semaines, International Republican Institute était à Milwaukee pour la Convention des Républicains et cette fois-ci nous sommes à Chicago pour faciliter la gestion des personnalités, des invités internationaux pour le compte du Parti démocrate. Je peux réaffirmer que c'est une activité non partisane qui donne juste une opportunité pour que ces personnalités s'imprègnent davantage du fonctionnement du processus électoral et du fonctionnement des partis politiques aux États-Unis d'Amérique.
Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur les participants africains à la Convention démocrate ?
Effectivement, cette année, nous avons près de 200 personnalités, 200 invités pour notre forum. Et le forum consisterait à organiser des panels de discussion dans la journée et en soirée, la distribution des accréditations pour que ces personnalités puissent aller à la Convention, suivre aussi les débats et les discours dans la salle de la Convention. Nous sommes très heureux du fait que parmi les invités, nous avons des personnalités africaines, notamment les leaders des partis politiques de la mouvance comme de l'opposition, venant du Nigeria, du Kenya, de l'Ouganda, de l'Afrique du Sud, mais aussi des pays comme le Soudan, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Ghana, tous ces pays qui œuvrent aussi pour le renforcement de la démocratie dans leurs pays respectifs.
Alors, vu que vous travaillez dans l'Institut pour la démocratie, est-ce que vous pourriez nous parler de l'état de la démocratie américaine ?
L'état de la démocratie à travers le monde fait l'objet de beaucoup de débats en ce moment. Parce que les observateurs constatent que la démocratie est malmenée, souvent dans les démocraties émergentes, mais aussi rencontre des difficultés dans les vieilles démocraties. Donc je crois que c'est un débat d'actualité, les gens en parlent, et c'est l'une des raisons pour lesquelles il est important que lorsque un pays comme les États-Unis organise des conventions, que ce soit républicain ou démocrate, que des personnalités de l'extérieur viennent aussi observer pour eux-mêmes tirer les leçons et eux-mêmes fait le constat de ce qui marche, ce qui peut être valable, mais aussi ce qui ne devrait pas copier dans leur propre pays. Donc, ce serait à chacun de tirer ses propres observations selon l'état de la démocratie dans leur propre pays par rapport à ce qu'ils auront l'opportunité de constater dans la semaine qui vient ici aux États-Unis.
Christopher Fumigno, responsable principal pour l'Afrique au National Democratic Institute. Le Sénégal a placé avec succès son premier satellite en orbite. Ce satellite GNDESAT-1A a été lancé vendredi depuis la base de Vandenberg en Californie. Selon la télévision publique sénégalaise RTS, le satellite est conçu et fabriqué par des ingénieurs sénégalais en partenariat avec le Centre spatial universitaire français de Montpellier en France. Pour une analyse, Mohamedou Oumfa a joint Aminou Mal Hadji, expert des systèmes de satellites de météorologie, ancien fonctionnaire de l'Agence spatiale européenne.
En dehors des pays maghrébins, en Afrique subsaharienne, très peu de pays ont franchi la ligne de pouvoir lancer un satellite. Parmi les pays qui l'ont déjà fait, il y a en première position l'Afrique du Sud, suivi du Nigeria, de l'île Maurice. Le Ghana et le Kenya l'ont fait aussi il n'y a pas très longtemps. Et le fait d'avoir collaboré avec l'Université de Montpellier est une très bonne chose car cela permettra d'amorcer un transfert de technologie spatiale. La technologie spatiale En fait, elle ne doit pas être négligée par les pays africains, car elle permettra de créer un genre d'écosystème de petites et moyennes entreprises qui, par conséquent, créeront eux-mêmes des emplois pour les jeunes ingénieurs africains.
À quoi pourrait servir ce satellite selon vous?
Le satellite sera utile sur plusieurs volets, en particulier pour la formation des ingénieurs et le transfert des technologies spatiales. Et puis, en second, on peut citer l'utilisation de ces satellites pour l'observation de la Terre, pour collecter des données, pour la gestion et la planification des ressources en eau. Et surtout, ces données-là aident à la compréhension des diverses variables du changement climatique, et en particulier, par exemple, la déforestation, l'évolution des côtes marines à cause de la montée des eaux. Il y a aussi la météorologie, et puis toutes les diverses applications pour l'aviation, par exemple, mais aussi la décarbonisation. Et puis, il ne faut pas oublier, la surveillance sécuritaire peut être un jour utilisée.
Le président sénégalais a déclaré que ce lancement marque un pas majeur vers la souveraineté technologique de son pays. En quoi s'agit-il d'un pas vers la souveraineté si cela a été fait avec un centre spatial français et lancé aux États-Unis?
Même si ce satellite a été fabriqué grâce à l'aide d'une université française, un pas se profile vers un transfert de technologie qui, à long terme, permettra aux ingénieurs sénégalais de prendre le destin du spatial de leur pays.
Là, ils ont lancé qu'un nanosatellite, donc il faut de la continuité. Et puis, il faut un certain nombre de satellites pour satisfaire les besoins dont ils parlent. Mais bon, il faut commencer quelque part, et puis persévérer pour réussir. Par contre, en ce qui concerne les lanceurs, très peu de pays au monde ont cette capacité. On peut citer les États-Unis, la Chine, les Russes, l'Europe. Donc, pour les Africains, il faudrait qu'ils se mettent ensemble au sein de l'Agence spatiale africaine pour un jour arriver à fabriquer un lanceur digne de ce nom. Et ça prendra du temps, il faut de la patience et de la persévérance.
C'était Aminou Mal Hadji, expert des systèmes de satellites et de météorologie.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
En Côte d'Ivoire, une variété de riz introduite dans le but d'augmenter la production de l'aliment de base de la région et à réduire les importations permet aux riziculteurs d'obtenir 2 récoltes par an avec un rendement allant jusqu'à 5 tonnes métriques par hectare. Les détails dans ce reportage de Cooper Evans, récit Rosine Munezero.
François Kaseyao, riziculteur ivoirien, luttait pour joindre les deux bouts avec une seule récolte par an avant de semer la nouvelle variété, résistante aux conditions météorologiques imprévisibles et capable de produire des rendements plus importants.
Aujourd'hui, le rendement est meilleur. Il faut dire qu'avec ces nouvelles variétés, avant c'était les herboisées. Il y avait beaucoup de variétés comme ça, mais avec ces variétés-là, on s'était pas en sorti. Mais cette fois-ci, dans ce temps où on a commencé avec la nouvelle variété CY11 et tout ça, fait que aujourd'hui, on s'en sort. À l'hectare, on peut avoir 4 à 5 tonnes. Et vraiment, je peux dire que le riz nourrit son homme.
Ce changement constitue un encouragement pour les agriculteurs locaux et pour le pays dans son ensemble. Herman Gessan Kouame, riziculteur.
Pour lui, on ne parlera pas de changement climatique. C'est comme si le temps est resté intact. Parce que lui, il n'a pas de dépôt. Quand il le plante, il n'a pas de... Quel que soit le temps qui va changer, il est toujours intact. Il est bien. Il maîtrise tous les climats. Il s'adapte à tous les climats.
Avant l'introduction du nouveau programme qui comprend une meilleure irrigation, la mécanisation et des semences améliorées à cycle court et résistantes à la sécheresse, les agriculteurs avaient du mal à produire une tonne métrique par hectare dans certaines régions. Seri Koné, directeur du centre de production et de conditionnement du riz d'Adérise.
Comme cette variété permet de faire 2 cycles dans l'année. Deux cycles dans l'année, parce que je venais de dire que le cycle semi-récolte est de 118 jours. Mais si le paysan est vraiment équipé avec des tracteurs ou bien des le paysan a un motoculteur, et aussi des options pour pouvoir récolter. Le paysan peut faire 3 cycles dans l'année.
La production ivoirienne de riz blanc local s'élève actuellement à 1,4 million de tonnes, bien en deçà de la consommation nationale de 2,1 millions. Yacouba Konaté, directeur général de la DERIZ.
Dans nos projections, en 2027, c'est-à-dire dans 3 ans, nous devons être à peu près à 2 200 000 tonnes. On aura dépassé le besoin. Mais tout ça est suspendu au résultat de l'Institut national de statistique, qui va nous donner les niveaux de consommation, les habitudes. On consomme combien et quelles sont les variétés de riz qu'on consomme, tous ces détails-là. Sur la base de ça, on va faire une bonne projection.
Pour couvrir entièrement la demande intérieure, la Côte d'Ivoire importe du riz, principalement de pays tels que l'Inde, la Thaïlande et le Pakistan. La décision de l'Inde de réduire ses exportations l'année dernière a suscité des craintes de pénurie dans plusieurs pays africains.
Direction la province du sud de Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo, où l'île d'Idjoui, située en plein milieu du lac Kivu, a accueilli ce week-end la 2e édition du festival Matumaini, ou Festival de l'Espoir. Le tourisme, les arts et l'espoir étaient au rendez-vous avec la participation massive du public. Davantage avec Zanem Netizaïti, notre correspondant dans la région.
Idjoui a réuni durant 3 jours des milliers de personnes venues de la région des Grands Lacs pour le festival touristique, artistique et sportif dénommé Matumaini. Un plaisir pour Blaise Amouli, insulaire d'Idjoui et président du groupe des jeunes Idjoui Music, de voir le projecteur de la région fixé sur leur entité 3 jours durant.
Je suis très heureux aujourd'hui parce que c'est la 2e fois qu'un festival pareil est organisé ici chez nous à Idjoui. Cela nous permet de vendre les talents de nos jeunes musiciens que nous encadrons dans différents groupes et que nous accompagnons dans leur scolarité. Malgré notre situation de chômage, nous avons pu faire de tous les jeunes de notre orchestre des intellectuels.
Parmi les disciplines qui ont bien égayé le public, il y a la course des pirogues sur les eaux du lac Kivu. C'est le quotidien de nombreux habitants de cette île d'Idjoui qui, selon l'histoire, n'a jamais connu des guerres. Queen Nasafari, une jeune habitante de la localité Bougaroula.
Cette île est vraiment exceptionnelle car même si elle est située dans l'est de la RDC, elle n'a jamais connu de guerre. Même nos grands-parents nous témoignent qu'ils n'ont jamais entendu les crépitements des balles ici. Pour cette paix qui règne à Idjoui, je peux appeler tout le monde qui le peut à venir passer ses vacances ici.
Le choix de Idjoui pour recevoir cette édition du festival Matumaini a également été porté selon la promotrice Madame Chiwene Kavuro sur le caractère environnemental que dégage cette île.
Il y a aussi une île à plein cœur de la RDC, c'est l'île d'Idjoui. Et elle a une beauté exceptionnelle. Séjourner sur une île, c'est comme être sur une planète. Il dit qu'il faut venir la découvrir. En tout cas, elle conserve encore son environnement. Et c'est pour cela que nous pensons qu'il faut que nous puissions développer cette île avec les idées touristiques.
Des artistes et athlètes venus des villes de Goma et Bukavu ont participé à cet événement qui a connu la participation de plus de 11 000 festivaliers selon les organisateurs. Zanem Netizaïdi, des retours d'Idjoui pour VOA Afrique.
C'est ici que s'achève cette édition du Monde aujourd'hui. Merci de rester fidèle au programme de VOA Afrique. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Au micro, Yacouba Ouédraogo, Lionel Gaïma, la réalisation. Ainsi va le Monde aujourd'hui. L'info continue sur voafrique.com ainsi que sur nos pages Facebook, YouTube, X et Instagram. Je vous souhaite de passer une excellente journée en compagnie des programmes de VOA Afrique.